c'est l'été sur France Musique.
Et c'est l'heure d'accueillir notre invité du jour, un invité qui, je crois, aime beaucoup les frères Jacques, c'est le claveciniste Bertrand Cuiller. Bonjour.
Bonjour.
Vous écoutez ça, vous aussi, à la maison, hein?
En ce moment, je les écoute, oui.
Ah oui, c'est marrant, c'était le hasard.
C'est le hasard. J'ai redécouvert ça, je me suis rendu compte que c'était aussi bien pour les enfants que pour les, grands.
C'est génial, on a envie de faire ça, on aura envie de faire des chansons comme ça.
Oui.
De s'amuser.
Parfois, on a envie de faire ça, oui.
Bertrand Cuiller, vous serez avec votre ensemble le Caravansérail cet été pour plusieurs concerts, mais notamment aux heures musicales de l'abbaye de Lessay, c'est à Normandie, en Normandie le 13 août, et au festival de Saintes, dont on parlait tout à l'heure, le 20 août, pour interpréter des concertos à plusieurs clavecins de Bach. Alors avant de parler de la musique de Bach, vous connaissez déjà ces deux festivals ou c'est une découverte?
Alors je les connais, Saintes, je le connais pas mal parce que j'y ai joué plusieurs fois. Lessay, j'y suis passé une fois avec les Arflots quand j'étais petit. Quand j'étais jeune. Mais je m'en rappelle très vaguement de l'essai. Je le connais maintenant puisque je connais la réputation et je vois tout ce qui s'y passe. Et je précise juste qu'on va le jouer une troisième fois à Symphonie en Périgord le 23 août aussi.
Oui, bien sûr.
Pour les Périgourdins.
Bien sûr, il y a plein d'autres dates.
Et Saintes, évidemment, oui, j'y suis allé pas mal de fois avec des ensembles et voilà, c'est une grande fête.
Alors, Saintes, festival qui fête cette année ses 50 ans, c'est un peu le temple de Philippe Hervègue, autre grand interprète de Bach. Est-ce que c'est un musicien avec lequel vous avez grandi, vous?
Hervègue?
Oui.
Oui, enfin, je l'ai beaucoup écouté, quoi. J'ai beaucoup écouté son... Bref, ses passions de Bach, quoi, m'ont beaucoup... C'est en particulier ses passions de Bach que j'ai écouté des milliers de fois, à Saint-Mathieu. Et je l'admire beaucoup, beaucoup, ouais.
Alors à Saintes et à l'abbaye de Lessay, vous allez jouer, on le disait, des concertos à plusieurs clavecins de Jean-Sébastien Bach. Tous les concertos choisis, est-ce que c'était des concertos pour clavecin à l'origine?
Ah, ça, je ne sais pas vous répondre.
Oui, parce qu'avec Bach, la question se pose toujours.
Oui, là, c'est une question qui est posée, mais on ne sait pas exactement. C'est peut-être des transcriptions, comme il en faisait beaucoup. Et comme pas mal de concertos pour clavecin sont des transcriptions ou de concertos de violon... Mais ça, on ne sait pas. Ouais. Les concertos pour trois clavecins, on a cette question. Moi, je ne sais pas. Alors, le concerto pour quatre clavecins, évidemment, c'est un concerto de Vivaldi, le célèbre concerto pour quatre violons. Je ne sais pas s'il est peut-être plus célèbre pour quatre pianos maintenant, d'ailleurs. Ouais. Mais des transcriptions. D'ailleurs, j'ai souhaité ajouter une transcription dans le concert. Enfin, oui, c'était... puisque cet art de la transcription était vraiment très prégnant, et puis on suppose que ces concertos sont issus d'autres concertos, donc j'ai fait une transcription du troisième concerto brandebourgeois pour trois clavecins, enfin en fait pour quatre clavecins.
Ah oui, alors pourquoi le troisième concerto brandebourgeois? Parce que a priori vous auriez pu être un peu plus feignant et puis prendre le cinquième, qui est le cinquième concerto brandebourgeois, qui est déjà presque un concerto pour clavecin à lui tout seul.
Faire un concerto pour clavecin accompagné par des clavecins, ça c'est bizarre. Par contre, faire un concerto d'orchestre, un concerto pour trois groupes de cordes, pour trois clavecins, ça me paraissait plus logique. Il y a vraiment le groupe des violons, le groupe des altos, le groupe des basses et la basse en plus, puisqu'on le fait à quatre avec un quatrième qui fait la partie de continuo, la partie de contrebasse, enfin de violoncelle. Donc non, ça marche super bien à trois clavecins en fait.
Bertrand Cuiller, est-ce qu'on sait si à l'époque de Bach lui-même jouait à trois ou quatre clavecins, si c'était une pratique courante avant Jean-Sébastien Bach?
Avant Jean-Sébastien Bach, je ne crois pas. Je n'ai pas entendu parler de ça, non.
Donc c'était un peu le premier comme ça à installer quatre clavecins.
Comme il a essayé beaucoup de choses au niveau des instrumentariums originaux, hein. Il a en particulier dans les brandebourgeois, il a essayé plein d'instrumentariums très très bizarres avec des mélanges d'instruments qui n'avaient jamais été utilisés auparavant. Et donc ça ne m'étonne pas qu'il ait essayé ça.
Alors quand on est quatre solistes, a fortiori quatre clavecinistes, on va donner leur nom. Il y aura Pierre Gallon, Jean Rondeau et Violaine Cochard pour le concert de l'essai le 13 août. Et puis ce sera Olivier Fortin qui remplacera Jean Rondeau, côté de Violaine et de Pierre et de vous-même bien sûr, à Saintes le 20 août. Quand on est quatre clavecinistes habitués à improviser avec sa propre liberté, à orner comme on le veut, comment on fait pour s'aligner sur un même style musical? Qu'est-ce qui décide?
Alors là, déjà, on n'improvise pas parce que vraiment toutes les notes sont là, c'est Bach qui est là et on fait pas de fioritures personnelles. Mais surtout, il se trouve qu'il y a quand même. Enfin, moi, j'ai choisi les clavecinistes en fonction de comment, des affinités autant humaines que musicales. Et je sais qu'on a chacun des styles de jeu différents, mais on a chacun envie d'aller vers les autres. Et donc on travaille comme ça, on travaille pour trouver un style de jeu qui corresponde. Mais on garde quand même chacun notre son et notre patte. Hein. Quand on joue, on joue quand même très différemment. Mais on cherche un truc qui fonctionne ensemble. C'est ce qui m'intéresse toujours quand on joue avec des gens, c'est qu'ils ont tous une personnalité chouette et qu'on essaye de faire un son d'ensemble tout en gardant les personnalités, quoi. C'est la musique de chambre.
Un concerto de Jean-Sébastien Bach, en tout cas un extrait, c'était le troisième mouvement, le final du concerto en sol mineur, BWV 1052, ça c'est pour l'immatriculation. Avec vous, Bertrand Cuiller, l'ensemble Stradivaria de votre papa Daniel Cuiller, un disque qui a quelques années maintenant, un disque fait en famille.
Oui, on l'a enregistré en 2009.
Ouais. Il y avait votre frère aussi?
Il était là, disque... il était derrière les micros, à la console, il faisait la direction artistique.
Ouais. À Nantes, le baroque, tout se fait en famille. Hein. Bon, Bertrand Cuiller, vous m'avez dit tout à l'heure une chose, puisqu'on parlait de ces concertos à plusieurs clavecins de Jean-Sébastien Bach que vous allez donner cet été dans le Périgord, bien sûr, mais aussi à Saintes et à l'abbaye de l'Essai, m'avait dit, oui, mais vous savez, non, mais il n'y a pas de problème de cohésion, puisque, en fait, tout est écrit. Mais alors, on ne peut pas orner la musique de Bach. Je vous pose la question parce que la semaine dernière, je recevais le chef et claveciniste Stéphane Fuget, que vous connaissez peut-être, ouais. Qui fait un énorme travail sur le Recitar Cantando, sur l'ornementation. Et puis après l'émission, on est allé au café, on a discuté, comme on fait ça souvent, de l'ornementation chez Bach. Alors, c'est quoi votre point de vue? Il faut pas orner
alors, moi, j'ai un point de vue personnel sur comment je fais quand je joue. J'ai pas de point de vue sur ce que doivent faire les autres et sur ce qu'on peut faire, ce qu'on pouvait faire à l'époque. Je suppose que l'ornementation était présente. Moi personnellement, dans Bach, je sais pas pourquoi, c'est genre peut-être un genre de vénération qui fait que je ne change rien, mais absolument rien. Et mon seul challenge, c'est de comme un pianiste qui prend une œuvre romantique ou quoi, c'est de prendre la partition et d'essayer de l'interpréter le mieux possible, voilà, avec vraiment un recul par rapport à la partition et de pas utiliser un tremblement ou un pincé comme il y en a dans la musique qui sont écrits parfois, qui sont indiqués. Voilà, je l'ai fait et voilà. Évidemment, on a une souplesse sur la longueur de l'ornement et comment on l'interprète, mais moi j'en rajoute pas en fait.
Parce que dans les suites de Bach, parfois on voit bien qu'il écrivait des sarabandes en deux parties, avec une partie avec ornement, une partie sans, ce qui sous-entend que lui-même devait orner certainement
peut-être,
quand il jouait. Hein, peut-être, on n'est pas sûr.
On n'est pas sûr.
Bon. En parlant de Bach, vous avez participé récemment à l'enregistrement d'un beau disque de sonates pour flûte traversière de Bach. C'était avec le flûtiste Frank Tuns pour le label Ramé. Des sonates notées pour clavecin obligé. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire cette formule qu'on entend souvent comme ça, sans l'expliquer?
Oui, obligato, c'est que le clavecin, quand on a un instrument de dessus, le clavecin fait une partie de continuo, une partie d'accompagnement avec une basse écrite, une main gauche écrite. Et réalise un accompagnement à la main droite, des harmonies et des rythmes à la main droite. Et là, clavecin obligé, ça veut dire que les deux mains sont écrites. Toute la partie est écrite. Donc c'est un dialogue vraiment plus entre le clavecin et la flûte plutôt qu'un accompagnement.
Ouais, donc là, encore une fois, pas de liberté.
Hein. On fait. C'est pas que je.
Ce que Bach a dit.
Pas de liberté. Non, attendez, je vais pas passer pour un ayatollah pour un truc super rigoriste ou raide. Non, parce qu'en fait, on a beaucoup de liberté dans l'interprétation.
Bien sûr.
C'est juste de ne pas changer la musique. Je me rappelle d'une phrase de Gustave Léonard, que je vénère beaucoup, et qui disait. Attention, qui disait dans un cours, attention à quelqu'un qui était en train d'orner une pièce de Bach, qui disait attention, si vous changez quelque chose, il faut que ça soit mieux que ce qu'il y avait à la base. Et quand on a Bach en face de nous, pour faire mieux, parfois je me demande si on ferait pas mieux de rien faire.
Ouais, en fait on s'écrase devant le génie de Jean-Sébastien Bach. Et tiens, est-ce qu'on sait dans quel contexte toutes ces pièces de musique instrumentale, que ce soit les sonates de flûte, que ce soit les concertos pour clavecin, dans quel contexte Jean-Sébastien Bach jouait ça?
Non, je ne sais pas.
Ouais. Peut-être dans les cafés, peut-être dans les cafés Zimmermann, dans les salons.
Certainement aussi dans les salons, oui, ou bien pour des particuliers, quoi.
Bon, on va écouter un extrait de ce disque qui était vraiment très très beau, qui est sorti sous le label Ramé, je vous le rappelle, c'était il y a quelques mois.
Thank you.
Un extrait de la sonate pour traverso et clavecin obligé en sol mineur de Jean-Sébastien Bach, BWV 1027 ou 1039, les deux, interprété par Frank Tuns au traverso, Bertrand Cuillot au clavecin, cet extrait de ce très joli disque ramé qui est paru il y a quelques temps. Vous me disiez, pendant qu'on l'écoutait, Bertrand Cuillot, que Frank Tuns était un véritable geek de la flûte. Il y a eu beaucoup de préparation avant de faire ce disque. Il a cherché le bon instrument, c'est ça?
Oui, c'est-à-dire qu'il réfléchit beaucoup, beaucoup sur l'instrument qu'il va jouer. Et souvent, c'est une idée d'instrument aussi qui lui donne une idée de programme. C'est-à-dire que là, il avait envie de jouer, en même temps sur une flûte en la, une flûte très grave. Je crois que finalement, en fait, c'est des allées-venues entre l'instrument, le programme. Ça lui a donné une idée de programme avec des transcriptions, des versions primitives de certaines œuvres, comme la sonate en si mineur qu'on a jouée en sol mineur. Et finalement, je crois qu'il a joué sur une flûte plus aiguë. Mais enfin, bon, voilà, c'est beaucoup de recherches sur l'instrument. Je comprends, c'est passionnant.
Ouais. Et d'expérimentation. Et vous me disiez aussi qu'il vous avait forcé à prendre des tempi assez lents.
Bah forcé. J'ai pas dit forcé.
Non.
Il m'a poussé.
J'exagère toujours.
Il m'a poussé à prendre des tempi lents parce qu'en fait, et c'était un très bon choix et que j'ai accepté. Enfin, c'était pas non plus une négociation incroyable, hein, mais juste il avait envie de ça. Et j'ai senti que c'était un bon chemin parce que voilà, c'est un bac humble, quoi. C'est pas un bac technique ou c'est pas un bac de virtuosité.
Ou un bac scientifique. C'est un bac littéraire. Ce que vous voulez dire,
c'est un bac poétique.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres projets cet été ou des projets pour la rentrée? Tiens, avec votre ensemble, le Caravansérail, en dehors des concerts Bach, ouais, dont on vient de parler déjà, le 20 juillet à Saintes, le 13 août à l'Essai. Est-ce qu'il y a d'autres projets à venir?
Pour l'été, il y a pas mal de concerts, mais je vous invite à regarder sur Internet parce qu'il y en a beaucoup, je ne vais pas les citer. Enfin, sauf si...
Le 23 août quand même, au Festival Symphonie en Périgord.
Voilà. Je vais jouer les variations Goldberg début août dans l'Aveyron, à Bournazel et à Richelieu, au Festival de Richelieu. Je vais jouer un projet avec un compositeur et musicien Loïc Guénin le 28 août.
28 juillet.
28 juillet, pardon.
Non mais demandez-moi si vous me donnerez votre agenda.
Dans les rencontres de Guil Durance à Mont-Dauphin. Et puis d'autres concerts avec Bruno Coxet aussi, tout début août.
Alors moi j'ai entendu dire quand même qu'il y avait un projet autour de Scarlatti pour la rentrée.
Ouais, bah oui.
Est-ce qu'on peut en dire un mot?
Oui, je continue un peu mon exploration de Domenico Scarlatti. Attention, pas Alessandro, Domenico, le fils. Donc avec tout un projet de disque pour Harmonia Mundi, un double album autour de toute son œuvre en fait. Donc le Stabat Mater qu'on a déjà enregistré pour 10 voix, cantate pour soprano, air d'opéra, duo d'opéra, symphonia d'orchestre, en fait, des genres de petites ouvertures d'opéra mini et survitaminées, les sonates de clavecin, encore des sonates de clavecin, et puis une sonate de violon, enfin voilà, un peu tout ce qu'il a fait d'autre aussi que les sonates de clavecin.
Donc ça c'est pour la rentrée sous la belle Harmonia Mundi, et vous c'est étiez la, d'ailleurs...
C'est l'enregistrement à la rentrée, hein, parce entre l'enregistrement et la sortie, il y a toujours beaucoup de temps.
Donc enregistrement, sortie beaucoup plus tard. Voilà. En tout cas vous étiez Bertrand Cuillot de l'aventure Scarlatti 555, organisée par France Musique et le Festival de Radio France à Montpellier. C'est décidément un compositeur dont vous n'arrivez pas à vous sortir. Il paraît même que vous voyez régulièrement le chiffre 555 partout. C'est vrai ça?
Il vaut mieux ça que 666. oui, je le vois souvent. Oui, je crois. Disons que, et puis en plus, là par exemple, on est au studio, je sais pas combien, 419. Mais à chaque fois que je passe devant un chiffre comme ça, entre 0 et 555, j'ai la sonate. Alors je les connais pas toutes quand même, mais souvent ça m'arrive d'avoir toute la partition et la tonalité et le truc qui revient. C'est une obsession. Oui.
En tout cas, croyez-le ou non, mais moi ce matin, en me levant, il était 5h55 pour venir. Et je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose de maléfique chez ce compositeur. On va se quitter, mais avant, je voudrais quand même dire une dernière chose, Bertrand Cuillot. C'est que moi, vous m'avez régalé pendant un an et demi de confinement. Il faut dire quand même aux auditeurs que vous êtes un des plus grands comiques que je connaisse. Vous faites des vidéos incroyables sur les réseaux sociaux, hilarantes. Vous avez amusé tout le monde musical, d'ailleurs. Et notamment, il y en a une en particulier, un truc complètement dingue. C'est que vous arrivez à chanter Frère Jacques en canon, tout seul. Ça, moi je ne sais pas comment on fait et je pense que c'est un exercice mental impossible et je voulais savoir si vous accepteriez de m'apprendre.
Je veux bien vous apprendre. Là, je peux pas le faire à trois voix parce que je me rappelle plus. Je m'étais fait quand même un petit pense-bête. Je veux bien vous faire à deux voix si vous voulez.
Mais montrez-nous.
Alors, je vais commencer à une voix. Je vais me ridiculiser sur France Musique. C'est
non, pas du tout.
Alors, frère Jacques... Ne vous endormez pas. Hein. Frère Jacques, Frédore, mais j'avoue que... Frédore, mais j'avoue que... Dans son hermélé, ma voutine... Voilà, etc.
Mais c'est impressionnant. Moi, franchement, je ne sais pas comment... Il faut être claveciniste, à mon avis. Il faut avoir une notion des plans musicaux et des voix pour faire ça.
Le clavecin rend fou, surtout.
Ouais, ça doit être ça. Bon, en tout cas, moi, je vais m'entraîner. Hein. On va faire un petit cours, là, après l'émission. Merci beaucoup, Bertrand Cuiller, d'être venu nous voir ce matin. Bon, on va se quitter avec Scarlatti, justement, une des sonates que vous aviez enregistrées dans le cadre du festival de Radio France. Je vous laisse deviner laquelle. Évidemment reconnu, Bertrand Cuiller, puisque vous les connaissez toutes par cœur.
143.
Yes, 143, Kirkpatrick 143, la sonate en do majeur, interprétée par vous-même. C'était dans le cadre de cette grande intégrale qu'on peut retrouver en vidéo aussi sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube de France Musique. Je vous souhaite un bel été, Bertrand Cuiller.
Bel été à vous, merci
à bientôt.
Pour l'invitation.